Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous autres?
Ben, ça va fantastiquement bien. J'attends toujours ta chronique avec impatience. Bon, les auditeurs aussi, de ce que j'ai compris, parce que franchement, toujours très belle réponse. Et là, il y avait un anniversaire hier?
Avant-hier.
Vendredi. Vendredi. Et c'est l'anniversaire du décès de Robert Bourassa.
Oui, premier ministre du Québec entre 1970 et 76 et 85 et 94. Il a fait deux mandats quand même séparés de plusieurs années. Pourquoi on a choisi Robert Bourassa? Ben, outre l'anniversaire de son décès, la semaine dernière, on vous a parlé de la crise d'octobre.
Oui.
Or, c'est un acteur très important de la crise d'octobre.
Ben oui.
Il était premier ministre depuis seulement 6 mois, lui, quand la crise d'octobre a éclaté.
Il était pas vieux, en plus.
En plus, il avait 36 ans. C'est le plus jeune premier ministre élu au Québec. Là. Il n'y en a pas un qui a passé proche. Ouais, il avait 36 ans quand il a été élu premier ministre. Il était chef du parti depuis le mois de janvier cette année-là. Alors, ça faisait vraiment pas longtemps. Puis, il n'était pas connu tant que ça de la population, M. Bourassa, parce qu'il avait été élu la première fois en 1966 à l'élection précédente. Puis là, évidemment, les libéraux avaient perdu cette élection-là aux mains de l'Union nationale. Alors, il n'avait pas été ministre de rien. C'était un député. Et puis, dans le cabinet fantôme, il avait un rôle relativement obscur. Alors, bref, c'était un petit peu une surprise qu'il se ramasse chef du parti. Pendant la crise d'octobre, on a souvent dit, en fait, l'histoire officielle veut que ce soit lui, Robert Bourassa, qui a demandé à Pierre-Éliott Trudeau de déclencher la loi sur les mesures de guerre. Mais il y a une sérieuse zone d'ombre qui subsiste sur ce fait-là. Est-ce qu'il l'a vraiment demandé? Est-ce qu'on lui a fortement suggéré? Est-ce qu'il y a eu des pressions d'Ottawa pour qu'il demande au gouvernement fédéral de déclencher les mesures de guerre?
C'est le genre d'information qu'on n'aura jamais.
En tout cas, pas de lui, certainement pas. Là, parce qu'il n'est plus là pour... en fait, il y a plus grands acteurs de cette époque-là qui sont là pour nous le dire.
Écoute, on regardait en meeting vendredi, on se disait, bon, là, lundi, c'est le 50e de la crise d'octobre, on essaie dessus, tu sais. Sais-tu trouver quelqu'un qui était là, un ministre de l'époque, je sais pas quoi. T'sais, les ministres de l'époque, là... sont rendus, je te dirais, entre 85 et 95 ans, ceux qui sont toujours vivants.
Il y a M. Castonguay, qui est encore vivant, Claude Castonguay, qui était ministre à cette époque-là.
Le monsieur de l'assurance maladie.
Ouais. Mm-hmm. Il semble qu'il est encore en vie, lui.
Pourrait.
Mais il semble qu'il était ministre à cette époque-là. Mais évidemment,
c'est le ministre de la Santé.
Oui, c'est ça. Alors, il était plus ou moins impliqué
monsieur
directement,
Castonguay,
mais il était là.
Il donne quel âge aujourd'hui?
Oh, mon Dieu, il est pas loin de 90.
91?
Ouais, c'est ça. Hein.
Tu sais, c'est quand même du stock, là. Ouais.
Alors, revenons à nos moutons, monsieur Bourassa. Lui, là, Robert Bourassa, il y a seulement deux premiers ministres qui ont été réélus après avoir été battus. Adélard Godbout en 1939, mais lui, quand il avait été battu en 1936, il venait d'accéder à la chefferie. Louis-Alexandre Taschereau s'était retiré, puis c'est lui qui avait élu. Alors, bref, ça n'avait pas été très, très long, son règne de premier ministre, puis il était resté dans l'opposition. Puis l'autre, c'est Maurice Duplessis en 1944, qui avait battu Adélard Godbout en 1936, puis qui avait été défait en 1939. Il était resté chef de l'Union nationale, puis il avait été réélu finalement, puis il avait eu un long règne de 15 ans par la suite. Mais Robert Bourassa, c'est le premier, c'est le seul en fait, qui a été chef du parti, premier ministre, qui a été battu, qui a abandonné la chefferie, puis qui est revenu. C'est assez particulier, là.
Ouais.
Il faut dire qu'il était tellement jeune qui pouvait se permettre ça, tandis que les autres premiers ministres avant lui, et même après lui, ben pas vraiment. Alors, ses premiers pas en politique. Robert Bourassa succède à un monument comme chef du Parti libéral. C'était Jean Lesage qui était le chef. Il a été le chef de 58 à 1969. Puis c'est lui, la Révolution tranquille, c'est lui. C'était un chef fonceur qui était... Il y avait beaucoup de charisme, M. Lesage. Ce que Robert Bourassa n'avait pas vraiment. Alors, c'était vraiment... Là,
c'est plus un intellectuel.
Ouais, exactement. Ben d'ailleurs, quand on regarde sa formation, là, lui, il avait étudié en droit, puis il avait fait des maîtrises en sciences économiques et politiques à Oxford, en Angleterre, en 1959, puis en fiscalité et en droit financier en 1960 à Harvard.
Ça va bien quand même.
Ouais, mais quand on regarde un profil comme ça, tu te dis, il me semble que c'est plus le profil d'un intellectuel, puis d'un gars qui va être dans les officines, qui va être haut placé, mettons, au ministère des Finances, mais que le public connaîtra pas vraiment.
Le serrage de main, là, c'est peut-être moins ça.
Ben, c'est ça. Mais finalement, il y a des amis qui étaient actifs au sein du Parti libéral du Québec qui vont le convaincre de se présenter aux élections de 1966. Quand Jean Lesage démissionne, ben là, évidemment, ça accélère sa progression. Et à la surprise de tous, il est élu premier ministre, il est élu chef du Parti libéral, puis il gagne l'élection de 1970 au mois d'avril.
Trois mois plus tard, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il a été élu en janvier. Je me souviens pas de la date exacte. Je pense que c'est le 17 janvier. Puis trois mois plus tard, même avant trois mois, il y a eu des élections. Puis le 29 avril 1970, journée de l'élection, il est élu. Alors, ça va vite, là. C'est quelqu'un qui est pas tant connu que ça de la population. Mais là, l'Union nationale avait fait pas mal son temps. Le Parti québécois ben, attirait du monde, mais il y a une grande frange de la population qui était un peu effrayée parce que le Parti québécois offrait...
Même en 70...
Il avait fait élire des députés en 70, les péquistes, mais pas beaucoup.
C'était-tu le PQ en 70? Ça a été fondé en quelle année, PQ?
68.
68, OK. Mmh. Okay.
Alors, 70, c'était la première élection du PQ, puis il avait fait élire, je pense, 7 députés. Et l'Union nationale en avait fait élire quelques-uns. En fait, l'Union nationale était l'opposition officielle, mais les libéraux avaient passé la gratte, là. Puis, sans surprise, la campagne de 70, M. Bourassa l'axe sur l'économie et la création d'emplois. Il promet la création de 100 000 emplois. C'est du stock en 1970, là. 100 000 emplois, ce qui lui vaudra le surnom de Bob la Job.
Bob la Job.
Ils l'ont appelé comme ça, Bob la Job. C'est principalement le méga chantier de la baie James qui a été mis en branle dès l'année suivante, en 71, qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Mais outre la baie James, il y a aussi un vaste programme de construction d'infrastructures publiques. Puis il y a le chantier olympique aussi. Oubliez pas les Olympiques 76. De 76, là. Ouais. Au début des années 70, ben, on construit, là. On est en plein dedans. Alors, évidemment, il y a de l'emploi qui se crée. Mais les tensions vont être vives avec les syndicats. C'est lui qui fait emprisonner les trois principaux chefs syndicaux en 1972. Il y avait eu une grève illégale. Il y avait eu une injonction pour casser la dite grève. Les chefs syndicaux avaient dit non, on continue. Alors, le gouvernement Bourassa fait ni un ni deux. On les emprisonne. Ce qui avait fait, ce qui était assez osé à l'époque. Quand on pense au personnage qui était Robert Bourassa, on se dit, oh, ouais, il a pris une décision de même, lui.
C'est vrai, c'est ça.
Assez... C'était assez
draconien,
spécial.
Là, ouais, c'est ça.
Ouais. Après ça, ben 1973, deuxième élection. M. Bourassa était fort pour faire des élections anticipées. Puis il aurait pu attendre encore un petit bout de temps. C'est 4 ans, un mandat. Mais en 73, il convoque des élections. Puis là, les libéraux passent la gratte, mais pas à peu près. 102 députés sur 110. L'Union nationale est rayée de la carte. C'est les libéraux mur à mur. Je pense que les péquistes en 73 ont 6 députés. Puis il y a 2 créditistes là, qui ont réussi à se faire élire dans 2 comtés. Alors là, Robert Bourassa a les coups des franches. En 1974, il va faire adopter la loi 22, qui est un petit peu l'ancêtre de la loi 101. Elle est censée protéger la langue française. En fait, avec la loi 22, le français devient la langue officielle du Québec. Mais finalement, elle satisfait personne, cette loi-là. Elle enrage les allophones, puis elle satisfait pas vraiment les francophones. Alors bref, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau pour M. Bourassa. Puis les luttes syndicales qui vont se poursuivre dans le deuxième mandat, entre autres avec le saccage de la baie James. Il y avait eu un gros conflit de travail à la baie James, puis les travailleurs avaient saccagé le chantier. Il y avait eu pour 35 millions de dollars de dommages. Imaginez, c'était pas un saccage juste à moitié. Puis il y a le débat sur la loi 102, la loi 22, pardon, aussi, qui vont être cruciaux dans sa défaite de 1976. Sa capacité à gérer des crises ne semble pas à point aux yeux de la population. Puis là, M. Bourassa sent le plancher lui glisser un petit peu sous les pieds. Alors, en 76, il refait la même chose que 3 ans avant. Il déclenche encore des élections anticipées. C'est une grosse année, même, voire 2 avant le délai prescrit. Parce que tu peux faire 5 ans comme mandat. C'est lui, en octobre 76, go, on déclenche des élections. Mais cette stratégie-là va lui éclater au visage.
Ouais.
Le PQ va gagner. Puis il a même été battu dans son comté. Ce qui était, lui, il se présentait dans le comté de Mercier à l'époque, qui était son comté d'origine. Lui, c'était un monsieur de l'Est de Montréal, puis il avait insisté en 66 pour se présenter là. Parce qu'il disait, chez nous.
C'est fou, hein, je vous disais au début de l'émission, puis hier, on parlait des politiciens, puis quand ils quittent, puis l'après-politique. Moi, le changement de cap, il se fait automatiquement. On dirait que le bilan devient moins important que l'histoire, l'implication, puis tout ça. Puis peu importe l'allégeance, que ce soit des péquistes, des libéraux, tu sais, des. J'ai toujours trouvé... Ouais, à des caisses solidaires, peu importe. J'ai toujours trouvé qu'un chef de parti qui se fait battre dans son comté, ou même, ou surtout, c'est encore plus élevé quand c'est un premier ministre, ou une première ministre, parce que de mémoire, Pauline Marois s'était fait battre dans 2014, dans Charlevoix. J'ai toujours trouvé que c'était tellement crève-cœur.
C'est rough, là.
Peu importe c'est lequel, je vous jure, là, l'allégeance politique puis le bilan, pour moi, a aucune influence sur ma réaction à chaque fois. Je fais comme, et que c'est sévère.
C'est une double défaite, dans le fond.
C'est un message fort, c'est un message vraiment négatif.
C'est une claque d'en face. Là. C'est pas juste « merci, au revoir », c'est comme « sac ton cœur ».
Ouais, va-t'en. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il s'est en allé. Il démissionne de son poste de chef du Parti libéral, mais il est jeune à ce moment-là. Il a seulement 43 ans. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu as été premier ministre d'une province. Tu as 43 ans. Ta carrière est loin d'être finie. Alors, il reprend son ancienne carrière d'enseignant dans plusieurs universités, dont certaines très prestigieuses, Yale et Johns Hopkins aux États-Unis. Puis, il a aussi enseigné à l'Institut européen de l'administration des affaires qui est en France. Il enseigne aussi au Québec. Ça, je savais pas. Il avait enseigné à l'Université Laval en sciences politiques. Alors, il y a des gens là qui ont étudié en sciences politiques à la fin des années 70 qui l'ont eu comme professeur. Mais il va profiter des déboires du nouveau chef du Parti libéral, Claude Ryan, qui a été battu par les péquistes en 81 et assez sèchement pour revenir au devant de la scène en 83. Il va redevenir chef du PLQ. Les militants le choisissent dès le premier tour de scrutin devant Pierre Paradis et Daniel Johnson Fist. Alors donc, en 85, décembre 85, c'est les élections. Là, le Parti québécois est usé par deux mandats de pouvoir et ce sont les libéraux qui vont gagner. Fait intéressant, il avait été battu encore dans son comté cette année-là.
Ah oui?
Il se présentait dans... Je me souviens pas du nom du comté, là, mais il avait été battu dans ce comté-là. Puis quand le parti qui gagne l'élection est porté au pouvoir, le chef a le privilège de pouvoir aller piger dans un comté qui est présenté par un candidat gagnant. Alors lui, dans le fond, là, il y avait un député libéral qui avait été élu, je me souviens pas où, qui avait dit « Bon, ben garde, je te laisse mon siège,
Il est allé
Robert.
Bumper.
Oui, ben ouais. Exactement. C'est carrément ça. C'est ça. Quand tu es dans l'opposition, le chef du parti peut pas faire ça, mais quand le parti a remporté l'élection, le chef peut... parce que là, c'est le premier ministre. Mais le premier ministre, faut qu'il siège à l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est ça.
Alors, dans ce cas-là, c'est possible. Alors, il avait quand même été battu deux fois dans son comté, dont une fois quand son parti avait été porté au pouvoir.
C'était dans Bertrand, sa défaite.
C'était dans Bertrand, puis après ça, il avait été dans le comté de Saint-Laurent, si je ne m'abuse.
C'est ça, à la place de Germain-Leduc.
C'est ça, puis c'était un comté qui était acquis aux libéraux depuis des générations, j'oserais dire. Là. Alors, c'est là qu'il avait été. Alors, donc, lui, l'économiste a encore son cheval de bataille, mais ce sont les négociations constitutionnelles menant à l'accord du lac Meech et son rejet qui vont marquer ce retour à la tête de l'État québécois. En fait, le deuxième mandat, là, c'est pratiquement... en fait, son troisième mandat, là, le mandat de 85 à 89 et même au-delà, c'est pratiquement seulement ça. Lorsque l'accord a été rejeté en juin 1990, là, il est pris dans les montagnes russes des relations entre le Québec et le reste du Canada. Là. Il s'en sortira pas jusque pratiquement à la fin de sa carrière politique en 1994. Sa déclaration après le rejet de Meech à l'Assemblée nationale dévoile toute l'ambiguïté du personnage. On va écouter la dite déclaration en question.
Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci.
Mais ça voulait dire quoi au juste?
Ça fait quasiment indépendantiste comme...
Quand il avait dit ça, là, ça avait mis le feu, là. On se disait, tabarouette, un gouvernement libéral va peut-être mener le Québec à l'indépendance ou à la souveraineté association. Mais quand on réécoute ce qu'il dit, là, c'est que pour toujours. Alors, ça veut dire, on peut le faire là, mais on peut le faire dans 5, 10, 15, 20 ans, 100 ans, là. Puis dans le fond, lui, Robert Bourassa, c'est ça qu'il avait en tête. Pour lui, là, l'indépendance ou la souveraineté d'association, c'était pas une option viable pour le Québec. Puis il va se concentrer quelque part à noyer le poisson pendant toutes les années qui vont suivre. Il y a eu la commission Bélanger-Campeau qui avait été mise sur pied pour étudier les relations entre le Québec et les autres provinces et Ottawa. Puis il avait même suggéré qu'il y ait un référendum sur la souveraineté, association et l'indépendance dès 1991. Mmh. Robert Bourassa, lui, il a pas dit non, mais dans sa tête, il voulait pas. Alors là, il a fallu qu'il manœuvre. Puis pour manœuvrer, là, Robert Bourassa, c'était pas mal le meilleur. Alors, il a réussi à faire valoir son point. Puis il n'y aura pas de référendum au Québec avant 1995. Référendum qui sera battu. Mais avant ça, il y a la saga se poursuit avec le référendum sur l'accord de Charlottetown en 1992, qui a été rejeté par une majorité de provinces, dont le Québec. Puis pendant toute cette période, il y a de là qui est effervescente au possible. M. Bourassa, il est malade. Il souffre d'un mélanome, d'un cancer de la peau.
Oui.
Puis, il tarde à se faire soigner parce qu'il n'y a pas le temps. Là. Il s'est fait soigner un petit peu là, pendant la période 90-91, mais il faut qu'il prenne soin de sa santé plus que ça. Puis, il le fait pas vraiment. Puis là, sa santé décline. Fait qu'en 1993, vers la fin de l'année, il décide de se retirer de son poste de premier ministre et de chef du Parti libéral. Il va être premier ministre jusqu'au 11 janvier 94. Puis après ça, ça va être terminé. Et près de 3 ans plus tard, le 2 octobre 96, il décède à 63 ans. T'es pas vieux, là. Il avait seulement 63 ans quand il est décédé.
T'as dit que, tu disais, c'est un fin stratège, puis arriver à naviguer aussi des fois dans les bons. On m'a raconté, une personne qui me racontait qu'il travaillait à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a du personnel à l'Assemblée nationale, des greffiers ou des, je sais pas trop quoi, mais un stagiaire qui était à l'université à l'époque. Bon, puis il me racontait que il surprenait des fois les journalistes quand il y avait des mêlées de presse avec M. Bourassa qui se concertaient après la mêlée de presse puis qui se disaient, OK, là... c'est quoi la nouvelle, là? Parce que il était tellement habile, tu sais, il était tellement habile à presque à noyer le poisson, si tu veux,
c'était
là.
C'était carrément.
Il avait quelque chose à annoncer. Il savait que ça passerait mal. Ça fait qu'il s'organisait, là, pour donner des documents, puis des documents, puis des documents, puis donner beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Puis quand un journaliste posait la question, la manière avec laquelle il répondait, il trouvait toujours un moyen pour que. Il était une espèce d'ambiguïté, puis qu'à un point tel que les journalistes, à la fin, étaient obligés. Discrètement, parce que c'est quelque chose qui se fait pas vraiment. Il y a un petit meeting, après tout le monde ensemble, c'est quoi ton titre, puis c'est quoi la nouvelle là-dedans. Là, d'habitude, c'est assez évident. Tu vois un point de presse parce que, bon, telle annonce, le gouvernement va annoncer un investissement dans tel domaine. Mais eux autres, c'était pas ça. Ils étaient vraiment obligés de faire des petits meetings, faire bon, là. Puis tu sais, c'est tout le temps un peu gênant pour un courriériste parlementaire de faire ouais, là, les gars. C'est quoi une nouvelle? J'ai rien compris.
Mais moi, je peux dire qu'à quelque part, ils enrageaient un peu les journalistes Robert Bourassa parce que, un, il y a ça. Deuxièmement, quand c'était le fameux Conseil des ministres, 1990, moi, c'est le début de ma carrière. Puis je travaillais à l'époque à CJRP et de temps en temps, ils m'envoyaient à l'Assemblée nationale quand le correspondant n'était pas là, qu'il y avait quelque chose qui sortait à la dernière minute pour un Conseil des ministres.
Ouais.
M. Bourassa rentrait jamais par la porte principale du Conseil des ministres. Jamais. Il se faufilait par en arrière. Des fois, on le voyait passer dans sa voiture de fonction. Puis on y voyait la petite tête. Il y avait le gros sourire en voyant un journaliste. Ah non, pas ce fois-là, les gars. Je passe encore tout droit. Puis quand il avait fait sa conférence de presse de démission, j'étais là. Puis c'était drôle parce que il fait sa conférence de presse, on lui pose des questions, etc. Puis après ça, il sort puis il a serré la main à tous les journalistes. Puis c'était un monsieur là, qui était très humble. Puis qu'il dégageait pas quelque chose. Moi, il m'a serré la main, il me connaissait pas, là. Il m'avait déjà vu, mais il savait pas vraiment qui j'étais. Puis il m'a serré la main comme les autres. Il s'est pas attardé plus ou moins à quelqu'un en particulier.
Ouais, ouais.
Moi, il m'a serré la main, puis il était quasiment gêné de me serrer la main. En fait, moi, j'étais gêné, là. Puis lui, c'était comme si, hein, mon Dieu, c'est François Thérien, ça. Mais moi, j'étais jamais.
Voyons le sieur de Thérien.
Ouais, c'est ça, le futur sieur. Peut-être qu'il le savait. Mais c'était un monsieur qui était très humble. Puis, à la limite, il était difficile à saisir. Puis, c'était un petit peu dans son personnage. Puis, pendant cette période-là, là, la période de Meech, là, ben c'est vraiment là où il a fallu qu'il l'ouvre comme jamais. Parce que lui, à cette époque-là, je vous ferai remarquer, 91, là, ce que je me souviens, c'est que les sondages donnait la souveraineté association gagnante par beaucoup, l'indépendance par un petit peu. L'indépendance, pas la souveraineté association. L'indépendance, dans les sondages, c'est en avance 52-53% ou à peu près. Puis lui, il fallait qu'il l'ouvre à travers ça pour parce qu'il voulait pas de ça. Alors,
c'est lui aussi qui disait, c'est-tu lui qui disait, quand vous lisez votre journal le matin, quand une nouvelle fait pas votre affaire, tu sais, il est en politique, fait que ça devait arriver, quand une nouvelle fait pas votre affaire, là, tournez la page, c'est terminé. Une affaire comme ça, là. Il me semble que c'était lui.
Je me souviens pas, mais il avait le don, lui, de d'étirer les choses pour que finalement, c'est vu triomphe.
Hey, merci François, c'est toujours extrêmement intéressant de te parler. Et puis, la semaine prochaine, c'est déjà réglé?
C'est ben, pas nécessairement, là. Pas ben, en fait, c'est ce que je t'ai supposé faire cette semaine, l'histoire du journaliste.
Jusqu'à temps que
je reçoive un messenger vers 11h vendredi matin, ils vont me dire « Fais donc Robert Bourassa à la place. » Oups, ah, OK.
Avais-tu prévu lire, toi, en fin de semaine?
Ouais, finalement, mon plan de fin de semaine a été changé un petit peu. Ben, on verra peut-être ça. Puis aussi, ce que je veux faire, peut-être je le ferai la semaine prochaine, c'est l'histoire des commerçants de Québec, dont les commerçants juifs de Québec, parce qu'il y en a eu. Il y a M. Marcel Adam qui est mort cet été. Qui est le...
Pas parent avec José Adam.
Non, parce que c'est même pas son vrai nom. C'est, ah. Marcel Adam, c'est un Roumain d'origine juive qui a émigré au Québec après la Seconde Guerre mondiale. Il est mort cet été, il avait 100 ans, je pense. Puis c'est lui qui est derrière les galeries de la capitale.
Ah ouais.
Alors, c'est quand même des bonhommes qui ont été visionnaires. Maurice Pollack, des magasins Pollack, c'en est un autre. Alors, c'est peut-être ça que je vais faire la semaine prochaine.
Ben, si vous avez des suggestions, François, de toujours personnages célèbres ou même d'événements, de commerces célèbres, peu importe, donc de ces personnages dont vous aimeriez connaître l'histoire, vous nous envoyez tout de suite un texto au 25226. Moi, je l'ai fait parvenir à François. François Terrien, dit le sieur de Terrien.
Bonne semaine.
Merci, grand plaisir. Salut. Merci. À la semaine prochaine.
Jusqu'à 10h, vous écoutez